RFI en direct 24h sur 24, mais aussi découvrir chaque jour des vidéos d'actualité internationale et africaine, des reportages, des interviews et des podcasts.
Pour nous trouver, tapez RFI dans la barre de recherche de YouTube, cliquez sur le logo de RFI et abonnez-vous pour être au courant de nos dernières publications.
Radio France Internationale, il est 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Vincent Dublange. Nous sommes au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris pour débuter cette édition.
Oui, et revivre, Marion, la cérémonie de remise officielle du tambour parleur du peuple Hatchan hier aux autorités ivoiriennes, le Didier Ayokwe qui fera son retour en Côte d'Ivoire prochainement. La une de cette édition, des organisations sénégalaises dont Amnesty qui réclament vérité, justice et réforme de la police après la mort d'Abdoulaye Ba sur le campus de Lucas d'il y a 10 jours. Et puis un soldat nigérien victime de stress post-traumatique jugé cette semaine à Niamey pour désertion.
Des conséquences encore difficiles à mesurer dans leur globalité. La Cour suprême américaine annule une bonne part des droits de douane imposés par l'administration Trump depuis avril dernier.
Le service économie d'RFI mobilisé pour tout vous expliquer dans le journal de 7h temps universel. À tout moment aussi sur l'appli RFI, on va en parler également avec le spécialiste Jean-Baptiste Velu que vous interviewez, Marion, dans une petite heure. Notre dossier à suivre dans une dizaine de minutes sur la filière avicole. La volaille ivoirienne qui cocotte et qui glouglousse, alors que le pays est l'invité du Salon international de l'agriculture qui s'ouvre aujourd'hui à Paris.
C'est une page d'histoire qui s'est tournée hier.
Le tambour parleur Didier Ayokwe, volé par les colons français il y a plus d'un siècle, est officiellement ivoirien. L'acte de transfert de propriété a été signé par les deux ministres de la Culture. Cérémonie en présence de nombreux autres responsables français et ivoiriens. Hier donc au musée du Quai Branly, Jacques Chirac à Paris. Dernière étape en fait d'un processus de restitution débuté en 2019 avec la demande officielle d'Abidjan. Lisa Vieilly.
En 1916, quand les colons français s'emparent de Didier Ayokwe, le lien social se fissure dans la communauté Hatchan. Tout juste 110 ans plus tard, c'est l'inverse qui se produit. Ses membres se réunissent à nouveau pour préparer le retour du tambour, comme l'explique ce représentant Claude Paulin Dagneau.
La réflexion maintenant, c'est de se dire qu'est-ce que nous pouvons laisser aux générations futures. Hier, ce tambour permettait de rassembler le peuple pour échapper aux vicissitudes de la colonisation, des privations. Ce tambour, il devient aujourd'hui une sorte de repère pour que les générations futures gardent la langue, gardent les traditions et gardent les coutumes. Nous sommes un peuple qui a été beaucoup urbanisé. Une nation qui se construit dans la modernité a besoin d'avoir une sorte de repère.
Le tambour va donc faire son retour à quelques kilomètres de là où il a été volé, dans le musée des civilisations de Côte d'Ivoire qui s'apprête à ouvrir. Il a été pensé avec cette même volonté de transmission, son directeur Tagro Nioleba.
Aujourd'hui, il ne faut plus exposer les objets de manière classique. Il faut utiliser d'autres outils de médiation, les QR codes, les tablettes et la numérisation 3D qui va permettre aux jeunes générations d'avoir accès au musée pour leur donner amour de ce patrimoine.
Pour permettre le voyage du tambour dans le respect des coutumes, les membres de la communauté Hatchan ont prévu une cérémonie lundi.
Et ce sera également au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Un mot de ce procès renvoyé pour Kalis Yapo, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, qui a été convoqué hier au tribunal pour diffamation, trouble à l'ordre public et tribalisme.
RFI à Dakar, 92 FM.
Au Sénégal, des organisations de la société civile lancent un collectif contre les bavures policières.
Un collectif lancé suite au décès d'Abdoulaye Ba, cet étudiant de 21 ans qui a perdu la vie il y a près de 2 semaines sur le campus de l'université Cheikh Diop de Dakar. Les circonstances ne sont pas éclaircies, mais cela a eu lieu au cours d'une intervention des forces de l'ordre sur le campus. Hier, une dizaine d'organisations, militants des droits humains, de représentants d'étudiants, étaient réunis au siège d'Amnesty International Sénégal. Le mouvement veut que justice soit rendue et demande aussi des réformes des méthodes de maintien de l'ordre. Pauline Le Troquet.
Pour le collectif, l'enquête sur la mort d'Abdoulaye Ba doit être l'occasion de regarder en face la question des violences policières à l'université et au-delà. Mercredi, le ministre de l'Intérieur a annoncé des sanctions pour plusieurs cadres de la police nationale. Tous ont été relevés de leurs fonctions après la dernière intervention des forces de l'ordre à l'UQAD. Insuffisant, estime Mohamed Fadelhadj, secrétaire général de la Fédération des élèves étudiants du département de Dakar.
Que ça soit relevé de leurs fonctions, oui, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Si vous sanctionnez les chefs, ça va se répéter parce qu'il y a les mêmes personnes qui sont là avec les mêmes formations, avec le même sentiment d'impunité. Je rappelle que ces bavures policières, c'est une personne qui est morte. Il y a des gens qui ont perdu leurs mains, leurs yeux.
Permettre aux citoyens de filmer la police en cas de bavure en vue de faciliter les signalements, c'est l'une des mesures proposées par le mouvement dans son plan d'action. Pour Momar Hassan Diouf, l'un des créateurs du collectif, il faut avant tout revoir la formation des policiers.
Il va falloir qu'ils se forment de telle sorte que le policier puisse savoir comment intervenir, quand le faire et donner la dignité, adapter les formations aux droits humains, à la dignité humaine et à l'intérêt physique du citoyen sénégalais.
Le collectif appelle l'ensemble des Sénégalais à porter ses revendications au cours d'une marche pacifique prévue cet après-midi à Dakar. Pauline Troquier, Dakar, RFI.
Le géant français du nucléaire Orano, qui se dit favorable à une solution négociée au Niger, le groupe veut amorcer un dialogue, je cite, avec la junte militaire à Niamey sur le cas de ses activités minières. Orano, qui a été en quelque sorte expulsé l'année dernière du pays sahélien avec la nationalisation forcée de la Somaïr, cette filiale en partie d'Orano chargée d'exploiter l'uranium du site d'Arlit dans le nord nigérien.
Le Niger, où l'on se penche ce matin sur une affaire qui était devant le tribunal militaire de Niamey cette semaine.
Rapporté par nos collègues, nos confrères du journal L'Enquêteur, un soldat a été jugé pour abandon de poste et vol d'une ambulance. Les faits remontent à un peu plus de 2 ans. D'après nos confrères, les débats au cours de l'audience ont mis en lumière un stress post-traumatique, Magali Lagrange.
Djibril est en poste au bataillon spécial d'intervention de Terra dans le Tillabéri, rapporte le journal L'Enquêteur. Le 19 octobre 2023 au soir, il profite d'une permission pour se rendre dans un bar de Terra dans lequel il passe plusieurs heures à boire de l'alcool. À une heure tardive, il se rend à la base du G5 Sahel, prend une ambulance, une arme de service et file à Chinta Baraden dont il est originaire sans que sa hiérarchie ne l'ait autorisé. Il est interpellé quelques heures plus tard. Poursuivi pour vol et abandon de poste, Djibril reconnaît les faits, poursuit le quotidien nigérien, mais selon la défense, le soldat a surtout besoin de soins. Les débats font ressortir un stress post-traumatique lié à la mission de lutte contre le terrorisme. Le ministère public évoque aussi les services rendus à la nation comme circonstance atténuante. Djibril est finalement condamné à 3 mois de prison après en avoir passé 29 en détention préventive. Une source militaire jointe par RFI note que les cas de stress post-traumatique chez les soldats peuvent augmenter en même temps que l'insécurité et qu'ils entraînent également des désertions. Le service dédié à leur prise en charge ne dispose pas de moyens suffisants, ajoute-t-il, pour y faire face.
Les décès réduisent de moitié le nombre de contaminations d'un tiers. Les bons chiffres du Burkina en termes de lutte anti-malaria. Le paludisme a reculé en 2025 selon les données officielles des autorités du Faso. 6h37 à Ouaga, même heure à Accra. Hier, le ministre ghanéen des Affaires étrangères a terminé une visite de 48 heures au Burkina. 7 accords ou protocoles ont été signés. Coopération transfrontalière, trafic de stupéfiants, reconnaissance mutuelle des permis de conduire nationaux, entre autres. Le Ghana qui coupe le dialogue, en revanche, avec Lomé, pas totalement bien sûr, mais à propos d'une question précise, celle de leurs frontières communes maritimes. C'est un vieux litige, Victor Cariou.
Faute d'accord avec le Togo, le Ghana a pris la décision d'avoir recours à un arbitrage international pour délimiter sa frontière maritime avec son voisin, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, précise le communiqué. Cette annonce faite par la présidence du Ghana intervient après une période de 8 ans de négociations. En 2018, un premier comité est créé à la suite d'une contestation de la part du Togo sur la légitimité de la frontière alors en vigueur. Cette dernière est héritée de la période coloniale. De nombreuses réunions sont alors menées sans succès. La proposition par le Ghana d'une frontière provisoire en 2021, Accra exploitant déjà une partie de la zone contestée, a finalement été refusée par Lomé. Après une rencontre des chefs d'État togolais et ghanéens en 2022, aucune avancée majeure ne semble avoir été atteinte depuis. Ce vendredi 20 février 2026, le gouvernement ghanéen actuel a donc décidé de recourir à l'arbitrage international afin, je cite, d'éviter une escalade des incidents qui ont créé des tensions entre certaines de nos institutions. Victor Cariou, Accra RFI.
A noter qu'une dispute similaire avait opposé le Ghana à son voisin ivoirien jusqu'en 2017. Le tribunal international du droit de la mer avait tranché en faveur d'Accra. RFI, il est 1h39 à Washington DC où, donc, je le disais tout à l'heure en titre, l'information de la nuit, c'est ce revers majeur infligé par la Cour suprême. Trump à Donald Trump et à son administration. La majeure partie des droits de douane annulés, illégaux. On y revient dans le journal international dans 20 minutes.
Dans cette édition, revenons sur ce qui a beaucoup occupé le président américain ces derniers jours, la mise sur pied de son Conseil de la paix.
Avec d'abord l'objectif de gérer la bande de Gaza dans le futur. Il devrait y avoir sur place une force de stabilisation à laquelle le Maroc se propose de participer. Renfort de poids pour Donald Trump. Le royaume chérifien pourrait jouer le rôle d'intermédiaire entre Israéliens et Palestiniens. C'est ce que nous dit ce matin le chercheur spécialiste du Moyen-Orient à l'Institut géopolitique de Bruxelles, Sébastien Boussois. Le Maroc, dit-il, devra également tenter de peser dans le processus et de faire valoir ses revendications.
On est véritablement dans un engagement multidimensionnel de la part de Rabat et qui évidemment ira au crédit du royaume chérifien, mais qui aussi renforcera encore un peu plus ses relations avec les Occidentaux, à condition qu'il ait aussi évidemment la possibilité suffisante, et ça je fais confiance au roi pour le faire, pour pouvoir peser et défendre au maximum les droits des Palestiniens sur ce territoire comme sur le reste, et de ne pas manquer, comme il le fait d'ailleurs régulièrement, de critiquer la politique israélienne d'expansion, de colonisation de la Cisjordanie.
Le spécialiste de géopolitique Sébastien Boussois, interrogé par Sofiane Amazian.
Le Salon international de l'agriculture s'ouvre ce matin à Paris, et cette année tapis rouge pour la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire qu'on connaît pour son cacao, bien sûr, son café, son EVA aussi, moins peut-être pour son aviculture. Pourtant, la filière s'impose aujourd'hui comme l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie ivoirienne. La production de volailles multipliée par 5 en 14 ans, 114 000 tonnes annuelles. Le secteur est porté par une demande forte, en forte croissance, et l'arrivée de jeunes entrepreneurs. Reportage à Abidjan, Abdoulaziz Diallo.
À la périphérie d'Ayama, 5 bâtiments en tôle abritent des milliers de poulets. L'odeur de l'aliment se mêle au piaillement incessant des volailles. Ici, Siaka Sangaré veille sur son élevage.
C'est rentable quand c'est bien fait. Il faut que les poussins soient suivis. Il faut les nourrir avec de l'aliment de très bonne qualité. À partir de 27 à 28 jours déjà, on peut commencer à faire l'écoulement. J'ai écoulé plus de 6000 têtes.
Avec un prix bord ferme fixé à 2200 francs CFA le poulet, le chiffre d'affaires peut atteindre plusieurs millions de francs CFA par cycle. Mais depuis début 2026, l'aliment de volaille, qui représente plus de la moitié des coûts de production, est soumis à une TVA de 9%, ce qui réduit les marges.
L'aliment qui nous coûtait 380 000 francs, aujourd'hui nous coûte 430 000 francs. Il y a une marge de 50 000 francs par tonne. J'utilise près de 17 tonnes par bande. Les dépenses deviennent énormes.
Nous avons été obligés d'appliquer une hausse de moins 150 francs CFA sur nos produits, confie un acteur du secteur. Du côté du ministère des Ressources animales et halieutiques, on assure travailler à des solutions pour limiter l'impact de cette nouvelle taxe. Docteur Abbé Roland, coordonnateur du programme d'appui à la production avicole nationale.
Nous allons chercher à développer tout ce qui est intrant, qui entre dans la composition de l'aliment. Je vais parler du maïs, du soja. Au lieu d'importer, il faudra que ces intrants-là puissent être produits localement.
Aujourd'hui, la filière génère plus de 320 000 emplois et couvre plus de 95% des besoins nationaux. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
L'aviculture en Côte d'Ivoire qui se porte plutôt bien, donc 300 000 emplois générés ces dernières années, mais il y a des difficultés. Le financement, la gestion des crises sanitaires et on l'entendait, l'alimentation animale. C'est ce que nous dit ce matin Sylvain Gautail, le président de l'IPRAVI, c'est l'interprofession avicole ivoirienne.
Nous sommes confrontés à des problèmes de financement. Nos petits producteurs n'arrivent pas à se financer parce qu'il n'existe pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui de banque agricole ou de banque spécialisée dans la compréhension des problématiques agricoles, ce qui fait que notre métier n'est pas bien connu par le milieu bancaire, de sorte que les éleveurs n'arrivent pas à trouver les financements. Nous avons aussi des problèmes de gestion des crises sanitaires, comme c'est le cas au niveau mondial. Vous savez que les crises sanitaires sont la grosse problématique de nos filières aujourd'hui. Et ensuite, nous avons les coûts de facteurs qui sont relativement importants. Nous avons encore de nombreuses matières premières agricoles qui sont importées. Et quand elles sont produites localement, elles sont à des prix qui sont relativement élevés. Mais à ce niveau-là, c'est vraiment un travail à long terme que nous sommes en train de mener pour réussir progressivement. Déjà avec l'augmentation de la disponibilité du maïs et ensuite avec un projet de création d'une filière soja.
Sylvain Gautail qui sera l'invité de Penaï Traoré tout à l'heure dans Un jour au village, 13h10, temps universel. Et d'Abidjan, pour l'heure il est 6h44, Marion Casanova.
Merci Vincent Dublange. Vous écoutez Radio France Internationale, il est 7h44 à Paris. Suite de notre série de reportages dans l'Ouest centrafricain, nous allons ce matin à Babwa, près de la frontière camerounaise. Ces dernières semaines, la ville est confrontée à une recrudescence de violences sexuelles. Des dizaines de femmes ont été victimes de viols. Face à cela, l'ONG CENI+, basée à Babwa, apporte un accompagnement psychologique pour favoriser la réinsertion sociale des survivantes sans discrimination. Reportage de notre envoyé spécial, Rolf Steve Domialeux.
À la tombée de la nuit, le quartier populaire de Bokom est plongé dans l'inquiétude. La peur s'installe, les jeunes filles n'osent plus sortir ni marcher seules dans les rues. Privé d'éclairage public, le quartier s'enfonce dans l'obscurité, à peine éclairé par la lueur lointaine de la lune. Sous un hangar de fortune fait de paille et de bâches, des jeunes se rassemblent. Ils fument et consomment de l'alcool. C'est ici que cette jeune fille de 15 ans a été violée.
Ce qui m'est arrivé m'a brisée. Je passais ici pour aller au marché. Ce jour-là, il pleuvait. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Ils ont abusé de moi avant de fuir. Aujourd'hui, je veux que justice soit faite.
Dans la cour à côté, Lima malaxe la boule de manioc à l'aide d'une spatule. Il y a un mois, alors qu'elle travaillait au champ, elle a confié sa fille de 5 ans à son oncle paternel. Malheureusement, celui-ci a abusé d'elle.
Après le forfait, il a quitté le village sans laisser de traces. Ma fille est entre la vie et la mort à l'hôpital. L'enquête se poursuit pour le retrouver.
À l'hôpital de Babwa, les victimes reçoivent des soins médicaux et un accompagnement psychologique. Dans son bureau, Elvige Kadidia Bita de l'ONG CENI+, en reçoit plusieurs par jour.
Franchement, le taux d'agressivité ici dans la ville de Babwa, c'est un peu élevé. Pour le cas hebdomadaire, des fois on reçoit 10 cas. Pour les cas mensuels, des fois ça peut être 15, 18, de 5 à 15 ans pour les filles et de 18 jusqu'à l'infini quoi, pour les femmes. Mais il y a d'autres cas dont la famille ne veut pas dénoncer juste par rapport à leurs traditions, coutumes.
Malgré les nombreuses sensibilisations, la situation continue de gagner du terrain dans cette ville d'environ 20 000 habitants, dont les jeunes représentent plus de 70% de la population selon les autorités locales.
Ça se passe beaucoup plus dans la famille, pour les enfants de 5 ans. Ce sont des cas un peu délicats. Si on emmène le cas, on essaie d'emmener chez le médecin qui fait la prise en charge médicale, on ramène ici parce que qu'on sauve d'abord sa vie avant qu'on puisse faire l'appui psychosocial.
À Babwa, ces filles sont régulièrement victimes de stigmatisation et de rejet de la part de la société. Pour une lutte efficace, les autorités locales multiplient depuis le début du mois de février les sensibilisations en porte-à-porte et les réunions publiques, appelant la population à la vigilance et à saisir la justice. Rolf Steve Domialeux, de retour de Babwa. RFI.
La suite de nos reportages dans l'Ouest centrafricain, demain à la même heure dans RFI Matin. Les drames liés à la migration africaine, particulièrement la migration irrégulière, font souvent la une des journaux sur le continent, mais on parle rarement de toutes celles et ceux qui parviennent à rejoindre l'Europe, notamment la France, et arrivent traumatisés par leur voyage. À Bobigny, près de Paris, l'hôpital Avicenne reçoit des migrants africains atteints de graves troubles psychiques liés à leur parcours. La psychologue clinicienne française Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski travaille au centre psychiatrique de l'hôpital. Elle est notre invitée Afrique. Elle répond aux questions de Sidi Yansané. Cet entretien est une rediffusion.
Bonjour Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski.
Bonjour Sidi Yansané.
En 2018, vous sortiez un livre, La voix de ceux qui crient, aux éditions Albin Michel, qui résume une décennie de consultations que vous avez menées avec des patients demandeurs d'asile, sans papiers, réfugiés, qu'on qualifie de façon un peu rapide comme les migrants. Cette voix dans votre livre, que crie-t-elle exactement ?
Vous avez dit une chose importante, vous avez dit qu'on qualifie un peu rapidement de migrants et on qualifie justement mal une population qu'on confond. Moi je m'occupe des personnes victimes de grandes violences, des viols, de la torture, des brutalités extrêmes. Et ces personnes arrivent dans un territoire où elles vont rencontrer souvent une violence, par exemple, institutionnelle et psychique, qui est celle, en France, de débarquer. Elles vont rencontrer l'ère du soupçon institutionnel. Et en fait, ce qu'on écoute, nous, c'est ce cri dû à une violence rencontrée au début du parcours, mais ensuite tout au long de la trajectoire migratoire. Et c'est avec ces personnes qu'on travaille comme clinicien.
Vous recevez beaucoup d'Afrique d'Africains, beaucoup d'Africaines. Que vous racontent-ils en général? Et notez-vous des particularités, des spécificités dans leur parcours comparé à des migrants venus d'hors d'Afrique?
En fait, je crois qu'il y a une géographie de la violence et une géographie de la guerre. Et oui, même si la question, j'allais dire, psychologique et psychiatrique du traumatisme, on retrouve toujours des invariants, hein, qui sont ces manières de réagir à la violence psychiquement. Cette géographie de la guerre africaine, par exemple, et de la violence africaine, elle peut être tout à fait particulière. Alors oui, nous recevons beaucoup de personnes africaines, moitié hommes, moitié femmes. Il ne faut pas oublier que la migration, ça concerne pour moitié les femmes. Vous avez peut-être vu les derniers chiffres de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les 10 premiers pays aujourd'hui qui ont donné des titres de séjour, il y en a 5 africains. Hein. Ça veut dire qu'en 2025, vous retrouvez la Guinée, vous retrouvez le Congo, en RDC, la Somalie qui apparaît, vous trouvez l'Érythrée et le Soudan. Voilà, 5 pays majeurs aujourd'hui, il y a des conflits qui... Voilà. Il y a évidemment les violences patriarcales, les violences intrafamiliales. Il y a beaucoup de femmes qui fuient ces violences. On a des femmes qui viennent parce qu'elles ont fui la violence maritale, les questions d'excision que protège la France. Donc on retrouve bien sûr ces géographies et puis on retrouve ensuite des particularités, j'ai envie de dire, culturelles. Moi, au départ, je suis anthropologue dans une partie de ma vie. Et c'est vrai que la question, elle va se poser peut-être de manière un peu différente en fonction des lieux. Quand on a des personnes qui viennent d'Afghanistan ou des personnes qui viennent d'Asie du Sud, hein, les problématiques vont évidemment apparaître de manière différente. Et on a une très grande partie de notre population qui vient d'Afrique, oui.
Est-ce que vous avez d'autres cas, autres que la violence ou quelque chose que l'on fuirait du fait que sa vie soit en danger directement?
Tout à fait. Aussi, dans la migration, il ne faut jamais l'oublier, de migrations qui ne sont pas seulement des migrations dites forcées. Elle peut ne pas être traumatique, bien sûr, mais partir, et même partir à l'aventure, j'ai envie de dire un mot qu'on entend, eh bien, en fait, ils vont découvrir que la trajectoire et l'arrivée est bien plus violente que ce qu'on pensait. Par exemple, toute une population de relativement jeunes partie avec un élan et qui sont ensuite pris dans la violence de l'arrivée. Vous avez une population là qui arrive, qui est très vite mise en doute, hein, pourquoi elle est là, après tout, est-ce que c'est pas de la migration économique? Tout de suite, il y a cette question du soupçon dans la demande, dans la présence en France. Et puis de l'autre côté, tous les liens familiaux, personnels, ces loyautés qu'une personne qui part va avoir avec sa famille, avec sa communauté. Quand on part pour réussir. D'abord, on hypothèque beaucoup de choses. On ne voit plus sa famille pendant des années. On ne sait pas si on la reverra. Si on la revoit, il faut qu'on ait réussi avec un statut qui est supérieur à celui qu'on avait là-bas. Nous, on a beaucoup de jeunes, par exemple, qui sont partis, qui galèrent. Ça veut dire que l'expérience de la rue, elle existe pour beaucoup de personnes qui arrivent. Le temps de trouver un boulot, un petit boulot, souvent dégradant, souvent il y a la question du déclassement. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont là. Les diplômes, quelquefois, ne servent à rien. Ce problème de reconnaissance fait que la dignité, elle est très atteinte et que les personnes, donc, qu'on rencontrent, vont vouloir protéger aussi leur famille.
Il y a un terme que vous avez utilisé tout à l'heure, c'est le terme de l'aventure. Et effectivement, si on dit généralement en Occident, hein, disons ça comme ça, le qualificatif de migrant en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, on ne dit pas ce terme-là. On parle de gens qui partent à l'aventure, on parle d'aventuriers. Est-ce que vous voyez, vous aussi, des aventuriers, des aventurières, dans le sens de gens qui partent dans l'inconnu absolu et verront ce qui va leur arriver?
Là, il y a quelque chose, il y a une grande force à continuer cette aventure, une projection vers le futur, un élan qui est souvent brisé par des obstacles, mais qui est très fort, oui, notamment chez des jeunes.
Merci pour votre témoignage, Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski.
Merci beaucoup à vous, Sylvie Sané.
La psychologue clinicienne Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski, elle répondait aux questions de Sidi Yansané. Cet entretien était une rediffusion.
RFI Matin.
Aux États-Unis, après la gifle de la Cour suprême infligée à Donald Trump, le reste du monde reste prudent. Encore, le Canada est l'un des rares pays à réagir. Il estime que ce jugement renforce la position d'Ottawa, qui considère que ces taxes sont injustifiées. Les relations n'ont cessé de se détériorer entre les deux voisins depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le Canada cherche depuis à réorienter sa politique économique et diplomatique aussi. La province du Québec, par exemple, se tourne de plus en plus vers la France. La langue française, notamment, se renforce. Une grande réforme impose aujourd'hui le français au monde des affaires et elle bouscule donc aujourd'hui certaines entreprises longtemps portées par le bilinguisme à Montréal. Nafi Alibert.
Dans les studios de jeux vidéo à Montréal, comme dans de nombreuses entreprises internationales, l'anglais était souvent la langue commune de travail. Aujourd'hui, même les messages internes doivent être en français.
On est à la recherche de traducteurs.
Ariel Mathieu, du Conseil du patronat du Québec.
Dans le contexte d'une pénurie de main-d'œuvre, c'est encore plus difficile pour les entreprises de s'adapter à cette nouvelle réglementation.
Cette obligation découle de la réforme linguistique adoptée par le gouvernement québécois en 2022. Elle fait du français déjà déjà langue officielle de la province, la langue officielle de l'entreprise. Depuis juin dernier, aucune société de 25 employés et plus ne peut y échapper.
On avait énormément d'entreprises qui n'étaient pas prêtes, qui n'avaient pas commencé leur démarche de francisation.
En fait, ce n'est pas la langue des salariés qui change, c'est celle de l'entreprise. Elles peuvent toujours embaucher un ingénieur venu de Berlin ou de San Francisco, mais désormais, c'est à lui de s'adapter au français et non l'inverse.
Ce sont de réels freins pour recruter des talents étrangers sur notre territoire.
La loi s'impose aussi dans l'affichage commercial. Elle concerne tout ce que voient les clients, emballage, site internet et vitrine, où le français doit maintenant être prédominant.
Il faut changer l'affichage, ça coûte cher.
L'avocat Jean-Philippe Micus accompagne des dirigeants dans leur mise en conformité.
Pour un client, on était dans les centaines de milliers de dollars, ou même plus qu'un million. Évidemment, lorsqu'on parle de chaîne, ça démultiplie les frais.
À ces coûts s'ajoute la pression de l'Office québécois de la langue française, qui est chargé de faire respecter la loi. Alors pour l'instant, il privilégie l'accompagnement, mais la menace est bien réelle, jusqu'à 30 000 dollars d'amende qui peuvent se répéter tant que l'infraction persiste.
C'est un fardeau extrêmement lourd. Il y a plusieurs entreprises qui se disent « ben voilà, mais je ne vendrai pas au Québec, tout simplement ».
Certaines marques ont retiré le Québec de leur boutique en ligne, faute d'offrir un site en français. Un signal d'alarme pour Michel Rochette du Conseil canadien du commerce de détail.
Alors, ça met un grand cercle rouge autour du Québec. C'est beaucoup de règles qui sont une écobande et qui rendent extrêmement périlleux le fait de faire affaire au Québec.
Mais pour le premier ministre québécois, François Legault, l'enjeu dépasse l'économie.
Le Québec forme une nation, mais qui est toute proportion petite en Amérique du Nord, qui sera toujours vulnérable.
Un pari politique pour la survie culturelle qui bouscule l'écosystème d'affaires de Montréal, une ville habituée à faire du bilinguisme sa marque de commerce. Nafia Liber, Montréal, RFI.
Le reportage international, vous le réécoutez sur notre site www.rfi.fr ou bien sur nos applications. Merci d'avoir choisi Radio France Internationale. Il est 7h56 à Paris. On est ensemble jusqu'à 9h. Chronique Média, Amaury de Rochegonde, vous nous parlez aujourd'hui de Patrick Drahi, l'homme d'affaires franco-israélien, consolide sa place dans le paysage médiatique israélien en se portant acquéreur de la chaîne 13 avec l'appui de Benjamin Netanyahou.
Oui, vous savez qu'en France, Patrick Drahi est sorti des médias en cédant BFM TV et RMC à Rodolphe Saadé, tout en conservant pour l'heure SFR. Et bien en Israël, c'est un peu l'inverse. Il a signé le mois dernier un accord pour vendre pour 600 millions de dollars son opérateur Hot Mobile, afin de se désendetté, tout en se renforçant dans les médias où il est déjà présent avec la chaîne d'info i24 News. Il s'est en effet entendu pour racheter au milliardaire d'origine ukrainienne Len Blavatnik une participation dans sa chaîne 13, l'une des quatre grandes chaînes privées du pays. Il prend d'abord 15% du capital, mais l'accord prévoit qu'à terme, il puisse avoir le contrôle de la chaîne avec 75% des parts pour près de 40 millions de dollars.
Et ce rachat programmé, Amaury, fait grincer des dents du côté des opposants de Netanyahou.
Oui, et pas seulement parce que Patrick Drahi est considéré comme Bibi compatible, autrement dit pas défavorable à Benjamin Netanyahou. Il a fait évoluer la ligne éditoriale de sa chaîne i24 News vers un soutien actif au Premier ministre. D'abord en donnant une vision très pro-gouvernementale de la guerre à Gaza, reprenant les éléments de langage des porte-paroles militaires ou officiels, ignorant les souffrances du peuple palestinien. Ensuite, Patrick Drahi a laissé très peu de place aux voix critiques de la politique du gouvernement, notamment face à son projet de réforme judiciaire visant à réduire les prérogatives de la Cour suprême. Enfin, il a recruté des éditorialistes de l'A14, deuxième chaîne du pays, éminemment acquise à Netanyahou.
Et la chaîne 13 est, de son côté, réputée plus critique vis-à-vis du gouvernement israélien.
Oui, et la crainte, c'est bien sûr que ces voix un peu dissonantes soient éliminées du paysage à quelques mois des élections législatives d'octobre, d'autant que Patrick Drahi pourrait fusionner sa rédaction avec celle d'i24 News. Le Mania s'est installé à Tel Aviv il y a 2 ans, en même temps qu'il a fait basculer sa chaîne d'infos sur le canal 15 en hébreu. C'est donc avec la ferme volonté de prendre racine localement localement qu'ils regardent désormais vers la télévision généraliste. On peut même se demander si avant la vente de BFM et RMC à l'été 2024, son intention n'était pas déjà de se replier en Israël. Est-ce que cela a pu influer sur la couverture de BFM TV? On se souvient en tout cas du malaise de la rédaction quand Olivier Rafovics, le porte-parole de l'armée israélienne, avait qualifié d'excellent travail la couverture par la chaîne du conflit à Gaza et au Liban.
La chronique média Amaury de Rochegonde à suivre dans 15 minutes. Notre invité, Jean-Baptiste Velu, spécialiste des politiques commerciales américaines, on reviendra avec lui sur le revers infligé à Donald Trump par la Cour suprême.
L'Afrique en marche.
Frédéric Garra.
L'Afrique en marche, une Afrique positive qui prend toute sa place sur RFI. Chaque dimanche, on vous emmène à la rencontre d'un porteur de projet, d'une entreprise, d'une association qui fait avancer le continent. Reportages, témoignages, récits d'initiatives gagnantes. Chaque pays a ses talents.
L'Afrique en marche, tous les dimanches à 5h47, 7h51 et 12h45 TU sur RFI.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Peut-on parler de l'esclavage de façon raisonnée? C'est le pari du livre qui vient de paraître, Les fers et le fouet, écrit par